flexi e honor como sud. Rede vous marché de nouvelle solidaire pour sud à l'océan.
Je vous rappelle quand même les dates de ce marché de Noël solidaire, c'est du 10 au 12 décembre 2015, donc dans une bonne quinzaine de jours, ici à Pôle Sud, avenue Jean-Jacques Mercier, numéro 3 à Lausanne. Vous ne pouvez pas le manquer quand vous sortez du métro à l'arrêt du Flon, c'est droit exactement sous vos yeux. Voilà, la table est prête, nos nouveaux invités sont arrivés, nous allons parler avec eux notamment d'engagement. Alors nous accueillons à présent autour de la table trois invités d'horizons tout à fait différents pour aborder les déclinaisons du mot engagement. Tous, par leur parcours de vie, ont donné un sens et un corps à ce mot, chacun à leur façon. Tout d'abord, Joël Voigneau, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Cocopelli. En deux mots, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une association qui travaille depuis une vingtaine d'années à la préservation des variétés de plantes potagères en particulier, mais toutes les plantes utiles aussi, et qui donc gère une collection d'un côté, une collection de semences qu'il s'agit de maintenir vivantes par la reproduction et la mise en culture régulièrement, et d'autre part qui s'agite un peu sur le plan politique et sur le plan militant, si on veut, parce que les conditions qui régissent du point de vue de la réglementation européenne, par exemple, la commercialisation de ces semences, font que c'est devenu très compliqué de maintenir ce patrimoine. Beaucoup des variétés qui sont dans nos collections sont non inscrites au catalogue officiel européen et donc, dans une bonne partie de l'Europe, sont tout simplement interdites d'usage et de commercialisation.
Donc nous allons parler d'engagement. À nos côtés, nous avons également Thierry Taroufi. Vous êtes président du GSA. Bonsoir.
Bonsoir.
Je le disais, le GSA, l'Association des Amis d'Haïti. Quel est le cœur de votre mission ?
En fait, nous, on travaille donc dans les hauts plateaux, dans la région de Hanche. On soutient des écoles primaires, plus précisément 4, où on finance ponctuellement des salaires aux professeurs. Parce que là-bas, la problématique, donc les professeurs ne sont pas payés. Mmh. Ou ils reçoivent un salaire, mais très bas. Mmh. Et puis, donc, ce qui fait que pour finir, ça découle sur ça peut aller sur la fermeture des établissements. Ce qui fait que, du coup, il y a pas mal d'enfants qui traînent dans les rues. C'est compliqué.
Et puis, nous avons autour de la table Pierre Tsvalen. Vous êtes revenu autour de la table. On vous a entendu en début d'émission. Toujours président de la FEDEVACO. Alors, si on vous a réunis, messieurs, ce soir autour de cette table, c'est pour que vous nous racontiez ce que ce mot d'engagement signifie pour vous, comment il s'exprime dans votre vie professionnelle et dans vos engagements associatifs. Je me tourne vers vous, Pierre Tsvalen. Vous êtes actif donc, dans le milieu associatif depuis longtemps, également en politique. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager au quotidien ?
Ah ben pour moi, c'est une préoccupation et un souci permanent. C'est vrai que depuis l'adolescence, j'étais préoccupé par cette planète et par l'interaction indispensable entre Sud et Nord. J'ai pu le réaliser pendant 11 ans avec Terre des Hommes, dont j'étais le porte-parole. J'ai accompli, heureusement, plusieurs missions d'information sur le terrain, souvent en accompagnant des journalistes. Et j'ai été au Pakistan, j'ai été en Colombie, dans plusieurs pays d'Afrique, mm-hmm. au Soudan, par exemple, pendant la crise du Darfour. Je vous donne peut-être quelques exemples tirés de mon expérience colombienne. J'étais à Cartagène, sur la côte Caraïbe, où des enfants, parfois très jeunes, sont soumis à l'exploitation sexuelle. Et j'ai pu voir les succès qu'avait l'organisation Terre des Hommes et qui a réussi par des mesures de prévention, d'aide aux victimes, mais aussi en s'attaquant directement aux trafiquants et a réussi à mettre en procès et à faire condamner un Italien, je donne cet exemple parce que c'était la première fois qu'un étranger était accusé pour exploitation sexuelle. Un gars très très âgé, mais qui avait donné de la drogue à un gars de 14 ans, lui avait offert une moto, etc. Il l'avait tué finalement sur overdose. Eh bien, ces crimes, dans un pays comme la Colombie où l'impunité est, j'allais dire, sanctifiée, ce sont des succès absolument importants. Je peux vous donner d'autres exemples que j'ai vus où le Terre des Hommes était actif auprès de personnes déplacées par la guerre civile, par les conflits. Ces communautés s'étaient installées en bordure de villages, sur des terres occupées. Terre des Hommes faisait le lien avec les municipalités pour faire reconnaître cette occupation des terres. Et j'ai vu l'eau courante arriver. Je me rappelle encore de ce petit enfant qui se douchait avec, pour la première fois, avec peut-être un seul tuyau, mais qui respirait le bonheur simplement parce que l'eau courante était arrivée. Mais c'est aussi des aides en termes d'aide à la formation, avec des agents de santé, des agents de protection des personnes qui sont aussi aidés de cette manière. Et je me rappelle aussi d'un homme, qu'est-ce qu'il pouvait avoir, 40, 45 ans, qui est venu vers moi, et qui je ne maîtrise pas l'espagnol, donc il m'a expliqué via un interprète que grâce à Terre des Hommes, il avait pu faire son bac. Pas mal, non ?
Mais ces victoires que vous mentionnez, c'est un peu ce qu'on placarde quand on dit « Ah, Terre des Hommes, ça marche super bien ». Vous, en tant que militant, en tant que membre ou que professionnel engagé sur le terrain, c'est des moments qui sont nécessaires pour continuer de travailler. Comment vous les vivez, ces victoires-là ?
Moi, je me suis chaque fois ressourcé en allant sur le terrain, bien sûr, et en voyant ces résultats de l'action. Chaque fois, je les voyais, je les percevais peut-être un peu mieux que nos responsables de programme, qui sont parfois dans des concepts un peu abstraits, imposés par la communauté internationale. Oui, c'est important, évidemment, de voir les résultats qu'on peut avoir sur place. Cela mobilise soi-même. Et évidemment, moi, comme porte-parole à l'époque, j'en faisais un instrument de mobilisation et de sensibilisation important du public en Suisse.
Vous, Thierry, vous avez un engagement dans un pays spécifique, en l'occurrence Haïti. À quel moment et après quelle réflexion vous vous êtes dit « je vais m'engager dans cette association, c'est celle-là ou c'est ça qui est important pour moi ?»
J'ai toujours eu au fond de moi l'envie d'aider, parce que le début de ma vie s'est déroulé en Haïti. Et puis, j'ai vécu 3 ans. Après, j'ai été adopté dans une famille en Suisse, où là, j'ai pu avoir une éducation optimale. Et puis, ce que d'autres Haïtiens n'ont pas eu, du coup, c'est ce qui me donne envie de pouvoir apporter quelque chose là-bas. Et puis le fait d'avoir été adopté, c'est aussi une influence sur mon parcours professionnel où je travaille comme éducateur.
Est-ce que vous allez souvent sur le terrain ?
J'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois par le biais de l'association et tout, pour suivre les écoles qu'on soutient. Et puis, j'y vais comme je peux, quoi.
Et comment ça nourrit, du coup, votre engagement d'être sur place et de voir concrètement, en fait, ce que fait l'association et pas seulement dans la distance ou sur le papier. Si voilà, on a pu verser un salaire, mais quand on est sur place concrètement, est-ce que ça change quelque chose à votre manière de vivre l'engagement associatif ?
Oui, parce qu'en fait, la première fois que je suis allé, c'était avec les 2 autres amis, donc les membres fondateurs, qui sont Manuik Mathieu et Mathieu Payu, qui, eux, ont aussi été adoptés. On était dans le même orphelinat. Et puis, au départ, l'idée, c'était de pouvoir faire un centre sportif, parce qu'ils étaient assez dans le monde du sport. Et puis, c'était juste une idée comme ça, mais on ne savait pas si c'était vraiment la priorité pour les gens là-bas. Du coup, on a fait un premier voyage il y a 7 ans en arrière. Et puis là, c'était vraiment le choc culturel, le retour aux sources. Puis on a vu qu'avant de faire un centre sportif, il y avait, d'autres priorités.
Plus importantes.
Et du coup, on s'est dirigé dans le domaine scolaire.
D'accord. Donc là, on a parlé beaucoup de projets qui impliquent très fort l'humain, qui est vraiment au centre, une question de développement, d'éducation. Vous, Joël, vous êtes sur un terrain différent, donc la question des quel est le mot que je cherche, des semences, voilà. Ça paraît moins porteur comme ça, alors que c'est au contraire crucial. Comment vous vous êtes approché de cette association? Comment vous la vivez et à quel moment vous êtes engagé dans cette association Copelli?
Bon, il y a de nombreuses années que je m'intéresse à la question de l'autonomie semencière ou de l'autonomie agricole, déjà pour commencer, dont les semences sont une question extrêmement pointue et cruciale. Je ne me souviens plus précisément du moment exact où je suis entré en contact avec ça, parce que finalement j'y suis depuis mon enfance. Je viens d'un milieu paysan. Et simplement, je pense qu'il y a eu un moment où effectivement j'ai eu un contact avec Dominique Guillet, qui est le fondateur de cette association Copelli. Et puis j'ai compris aussi qu'il était en train de se passer des choses particulièrement inquiétante en Suisse, puisque ça c'était donc en 2009, si mes souvenirs sont bons, 2008-2009, où on sentait arriver l'influence de la réglementation européenne sur les pratiques suisses. Et donc j'ai pensé que c'était le moment ou jamais d'amener Copelli en Suisse, et en tout cas d'essayer de créer une dynamique autour de la question de la semence à travers cette association qui est un peu particulière.
Particulière dans quel sens ?
Particulière parce qu'elle est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on se finance par nos activités, donc on fait du commerce de semences, bien qu'on soit sans but lucratif. Donc il faut faire cette distinction entre l'activité commerciale et l'activité lucrative. Et donc ça donne une certaine liberté de parole, une certaine indépendance. Mais c'est aussi extrêmement compliqué et difficile, puisque par définition, le fait de gérer un nombre aussi important de variétés, puisqu'on a une collection d'environ 2700 à 3000 variétés de semences, donc vous imaginez bien qu'on ne va pas vendre l'entier de cette collection chaque année, ce qui fait qu'il y a des choses qui fonctionnent d'un point de vue économique plus ou moins. Et donc, il y a toujours un risque important à avoir une gamme aussi large du point de vue commercial. Donc, ça oblige à tout un tas une certaine créativité, disons, dans la manière de mener les activités, l'aspect commercial des activités. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce qui est non commercial ou non marchand, qui est par exemple tout le travail d'information, tout le travail de sensibilisation du public, de soutien aussi à travers notre programme qui s'appelle Semences sans frontières. Donc on offre une certaine quantité de semences un peu partout dans le monde à des petites organisations, à des paysans, à des groupes de femmes, par exemple au Mali ou en Haïti d'ailleurs. On a aussi soutenu cette année un projet par un don de semences. Et donc tout ce travail-là, il est mené en parallèle de l'activité commerciale principale.
Vous, ce travail donc à la fois commercial et de diffusion non marchand, il représente quel pourcentage de votre temps ? C'est l'intégralité de votre occupation ?
Alors oui, c'est devenu extrêmement important. Oui, ça m'occupe à un peu plus de 100% d'ailleurs. Très vite, disons que la branche suisse de Copelli est née en 2009. Et depuis là, ça n'a cessé d'augmenter et de grandir. Donc on a maintenant un volume d'à peu près 800 membres. Et on a de plus en plus d'activités, de participation à des manifestations, des salons, des expositions de toutes sortes, mais aussi en organisant des conférences, des formations, c'est un travail assez considérable.
Du coup, ma question, elle s'adresse à la fois à vous et à vous, Pierre Twalen. Qu'est-ce que ça veut dire que sa vie professionnelle et sa vie enfin disons son militantisme personnel se retrouve comme ça mêlé en fait dans une seule activité. Est-ce que c'est un risque que ça déborde complètement sur tous les domaines de sa vie, que ça prenne justement, comme vous disiez, plus que 100% du temps, ou est-ce que finalement c'est une évidence parce que aimer son travail et s'engager dans son travail, c'est la même chose?
Moi, je dois dire que je sais que pendant mes 11 années à Terre des Hommes, je me suis senti militant. Ça a parfois gêné mes collègues, d'ailleurs, parce que d'abord, j'étais complètement identifié au but de protection et de santé de l'enfance, de l'organisation. Et puis, je voulais le faire connaître un maximum. J'ai quadruplé les chiffres de pénétration média, comme on dit aujourd'hui dans le jargon, parce que je voulais que les plus grands médias du pays puissent faire savoir les résultats qu'avait l'organisation. Maintenant, évidemment, j'ai pris aussi trop de place, et puis le management m'en a voulu, et s'est débarrassé de moi en 2012, d'ailleurs. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir être identifié, puis je l'ai senti chez les deux collègues qui sont ici autour de la table. Ce qui importe, c'est de croire en ce qu'on fait et de le tenir jusqu'au bout. Moi, jusqu'au dernier jour, j'ai tenu, malgré le fait que je savais qu'on se séparait de moi depuis 9 mois auparavant.
Et vous, Joël ?
Alors, c'est un sujet effectivement très, très important, très sérieux, parce que je dirais que oui, ça déborde très facilement. Il faut mettre quelques mesures de protection un petit peu en place quand même, parce que c'est vrai que je pense que ça dépend beaucoup aussi du domaine peut-être dans lequel on se trouve. Là, il y a une telle demande, il y a un tel souci maintenant, un souci croissant auprès de la population, que les sollicitations, elles sont absolument sans fin. Donc, on peut pas répondre à tout, même avec beaucoup de bonne volonté. Et puis, je pense qu'il y a aussi une... Alors, on parlait d'identification. Oui, bien sûr, je m'identifie en quelque sorte à Cocopelli, mais en même temps, je dois dire que je ne suis pas arrivé dans cette activité parce qu'il y avait une opportunité. C'est la situation qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que quelqu'un s'y mette, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, à la limite. Donc je ne suis pas la personnification de cette lutte. Mais parfois, je remarque que pour le public ou pour les personnes que je croise, on a tendance un peu souvent à m'appeler Monsieur Cocopelli, ce qui est plutôt flatteur par certains aspects, mais qui est aussi qui peut à un moment donné poser un problème, effectivement.
C'est bien compris par votre entourage ?
Oui, je dirais que oui. Oui, j'ai tout à fait le soutien de mon entourage proche ou environnant, quoi. Simplement, c'est vrai que comme nos moyens sont limités, il faut tout le temps redoubler d'imagination pour résoudre des problèmes. Et souvent, ça passe par la mobilisation de cet entourage, plus ou moins proche. Donc, je crains que sur la durée, évidemment, les gens, peut-être, à un moment donné, commencent à se lasser de voir passer des sachets de semences dans tous les sens. Et puis, de se dire que, ben voilà, il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Même si, je le répète, parce que c'est vraiment le fondement de notre travail, je crois qu'on commence vaguement maintenant à avoir une réponse du public qui perçoit la gravité de la situation sur cette réglementation et sur la perte de la biodiversité cultivée. Parce que, contrairement à la biodiversité sauvage, la biodiversité cultivée est intimement liée à l'histoire des humains et aux pratiques de l'agriculture. Et donc, on a vite compris que sans l'activité humaine, ces variétés, cette biodiversité-là va disparaître. Alors que la biodiversité naturelle se porte un peu mieux sans les humains. Donc là, il y a un paradoxe, si on veut, et il faut arriver à faire passer ce message.
Vous, Thierry, vous êtes dans une situation un peu différente, étant donné que vous avez une profession ici, l'association là-bas. Est-ce que vous avez parfois été tenté de vous impliquer complètement dans un travail associatif, de dire, moi, je veux, par exemple, aller vivre en Haïti pour être efficace à 100% sur ce thème-là, ou est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre qui vous convient bien entre une activité professionnelle et une activité associative qui, contrairement à nos deux autres invités autour de la table, se mêlent pas forcément de manière totale.
Vivre en Haïti, je m'y verrais pas. Même si, quand je suis là-bas, je m'y sens bien, malgré la situation locale. Mais après, ouais, c'est compliqué quand même de mesurer les, enfin, le côté professionnel et privé. C'est compliqué quand même. Par moments, quand il y a, parce qu'il y a des périodes dans l'année où on a plus de manifestations, quoi que ce soit. C'est dur de doser notre engagement par rapport à ça.
Et dans votre famille ou parmi vos proches, à part les deux autres membres fondateurs du groupe des Amis d'Haïti, ça a été bien compris le fait que vous vouliez vous engager dans votre pays d'origine alors que vous aviez été élevé ici ?
Ah, tout à fait, oui. Ils étaient même très enthousiastes par l'idée. Du coup, ils nous soutiennent aussi par, suivant ce qu'on fait, en fonction de nos besoins. J'ai le soutien de la famille, oui.
Merci.
J'ai aussi un petit frère qui est adopté en Haïti. Qui
fait partie de l'association que ça aussi.
Non, mais suivant les manifestations qu'on organise, il participe aussi.
Ouais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé quelques bribes de vos parcours de vie, tous différents, mais tous très inspirants. Merci, Joël Voigneault. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Cocopelli. Thierry Taroufi, président du XA, l'association des Amis d'Haïti. Et Pierre Tsvalen, président de la FEDEVACO. Merci beaucoup d'être passé sur les ondes de Radio Django ce soir.
Merci à vous. Merci de votre accueil.
Merci à vous.
La suite de cette soirée avec un dernier volet qui traitera le travail sur la place publique et la visibilité. On entre dans le grand thème de la nécessité de communiquer, lié bien sûr avec ce marché de Noël solidaire, puisque c'est la thématique de cette émission de ce soir. Et puis nous aurons également deux billets d'humeur, celui tout d'abord de Daniel Suri et puis celui de Stéphane Venanzi. C'est dans la suite de cette émission jusqu'aux environs de 20h45.
Bienvenidos a la Feria de Navidad Solidaria de Pôle Sud.